Les chiens de type pitbull ne sont pas interdits à Gatineau, mais théoriquement, ils ont un médaillon différent pour permettre de mieux les identifier. Mais à ce point-là, à quel point on peut intervenir, c'est là l'enjeu. Actuellement, on a une première infraction qui peut varier entre 300 et 1000 $ pour un propriétaire ou un gardien, le double pour une compagnie ou un organisme. Et pour une première récidive, on veut donc doubler les amendes. Et pour une deuxième récidive, on veut les tripler. Mais le problème, encore une fois, et ça revient toujours à l'hôtel de ville quand il est question des chiens potentiellement dangereux, c'est qu'il manque de surveillance, notamment dans les parcs. Et là, la Ville a récemment injecté, on sait, de l'argent pour avoir un total de 3 préposés aux animaux, là, si tu veux, durant l'été pour l'ensemble du territoire. On a donc 2 préposés à temps complet et une autre source qui est ajoutée l'été pour intervenir uniquement là, auprès des chiens potentiellement dangereux. Mais ce qu'on fait, c'est juste de la sensibilisation. Donc, on ne met pas de contravention, c'est seulement les policiers qui ont la capacité d'intervenir et d'appliquer le règlement, mais c'est très rare qu'ils vont intervenir à moins d'urgence. Et juste pour te donner une idée rapidement, on rapporte 91 cas de morsures en 2018, dont 56 par des pitbulls. Et on sait que les plus récents impliquent des enfants de 2 à 4 ans. Alors, réaction à ce sujet-là, on a Louise Boudriat qui souligne l'urgence d'ajouter des ressources. On peut l'écouter.
C'est qu'on n'est pas capable de faire respecter notre règlement. Là, moi, je suis un petit peu surprise de voir que dans les recommandations, on ne recommande pas d'augmenter le nombre de préposés ou un budget additionnel là-dessus. Alors ça, je pense qu'il faut, en tout cas, si on y va de l'avant avec ça, puis je suis loin d'adhérer à ce qui est proposé aujourd'hui. Moi, je me dis, on n'est pas capable de régler cette situation-là.
OK. Mais Caroline...
Oui, vas-y.
Juste pour établir, parce que là, on va entendre des conseillers, mais juste pour revenir un pas en arrière. Alors, la proposition, c'est le maintien du statu quo, mais dans des recommandations, ça, c'est du service de police, avalisé, j'imagine, par la direction générale. Ils sont pas d'accord. Oui. Mais les élus seraient en désaccord parce qu'ils veulent être plus tolérants ou plus sévères?
Plus sévère, c'est ça. Donc, c'est le cas de Jocelyn Blondin, notamment, qui lui dit qu'on pourrait même tripler encore plus les amendes. Donc, c'est vraiment ce qui est revenu souvent. Oui, statico, parce qu'effectivement, le règlement est quand même bon dans son ensemble, comme je disais, mais c'est dans la manière de l'appliquer. Alors, évidemment, il faut être plus sévère, mais là, en ce moment, on est comme tolérant. C'est plus à ce niveau-là où on trouvait que c'était un enjeu. On peut écouter M. Blondin à ce sujet-là.
C'est le problème qu'on a, c'est qu'on manque de personnel sur le terrain pour l'appliquer. Alors, il va falloir, à un moment donné, qu'on mette les choses en place, puis qu'on les mette comme il faut, qu'on ajoute du monde pour que ça soit appliqué, puis qu'on soit plus sévère.
Oui, c'est toujours ça le problème à Gatineau. Parce qu'à chaque fois qu'on demande un règlement, puis ça prendrait un règlement ci, puis là, puis etc., la question se pose toujours, OK, mais on l'applique comment ce règlement-là? Parce que c'est bien beau de décider ça à la maison du citoyen, mais si sur le terrain, on a de la difficulté à l'appliquer, ça vaut pas cher à l'once.
Bien, c'est ça. Puis d'ailleurs, tu serais étonné d'entendre que la conseillère Nathalie Lemieux a été très critique pour une rare fois.
Mon Dieu.
En disant que c'était hors de question de maintenir le statu quo.
En tant que politicien, c'est notre travail d'avoir le courage de prendre des décisions qui ne sont pas toujours faciles. Mais c'est un devoir qu'on a envers les gens chez nous de les protéger. Puis moi, là, je n'accepterai jamais le statu quo. Je veux qu'on trouve une façon d'avoir un registre clair, net et précis, parce que juste dans ma rue, il y a 3 chiens potentiellement dangereux et il y a beaucoup d'enfants.
OK, mais elle est très, très minoritaire autour de la table, si je comprends bien.
Bien, essentiellement, je pense qu'elle a le même point de vue que l'ensemble de ses collègues au niveau de rendre plus sévère la réglementation et de ne pas maintenir le statu quo. Évidemment, il y aura décision qui va venir en temps et lieu, mais je pense pas que ça va faire l'unanimité le fait de rendre statu quo, finalement, la réglementation. Je pense qu'il va y avoir des ajustements à faire à ce niveau-là.
Quelle boîte de Pandore, puis le gouvernement précédent, M. Couateux en tête, avait promis, il y a belle lurette, de régler ce dossier-là, puis ils ont accouché d'une souris, encore une fois, laissant aller. Parce que, encore là, posons-nous la question, ça a-tu du bon sens d'avoir des règlements différents par ville? Imaginons les MRC, par exemple, parce que Gatineau, c'est plus facile à administrer, mais les MRC, les pauvres policiers qui sont pognés à gérer ça ville par ville, puis là, c'est une médaille différente. Là, ça prend, en laisse, pas plus que 2 mètres. L'autre, c'est 6 mètres. C'est pas gérable, cette affaire-là. Alors, Québec a encore abdiqué ses responsabilités pour dire clairement ce qui était pour se passer. On sait qu'à Montréal, on a reculé avec la position de Denis Coderre. Alors, c'est encore un panier de crabes, l'histoire des chiens potentiellement dangereux.
Oui, et ça ressemble à ça, Gatineau, d'ailleurs, c'est ça. Elles ont le pouvoir, les villes, d'appliquer leur propre réglementation, mais la plupart attendent là, ce que Québec va faire pour y aller.
Oui, c'est ça. OK, on va sur les boîtes de dons.
Oui, les organismes à but non lucratif qui vont finalement avoir le monopole pour installer leurs boîtes de dons sur leur territoire. Donc, le privé sera écarté carrément pour favoriser les organismes locaux. On nous dit que 40 % des 140 boîtes de dons vont disparaître du paysage gatinois parce qu'elles appartiennent à des entreprises privées. Alors, les OBNL vont devoir payer maintenant 60 $ par terrain pour installer leurs boîtes d'ici le printemps. Alors, s'il y a 3 boîtes de dons, par exemple, sur un terrain, ça va être 60 $. Mais si on a plusieurs terrains, ce qui peut aller jusqu'à 10, ça va être 60 fois 10. Je ne sais pas si tu me suis.
Mais c'est-à-dire, quand tu me parles des terrains, les gens qui mettent ça sur le terrain, par exemple, du Jean Coutu, est-ce qu'ils vont payer au Jean Coutu?
Non, ça va tout être payé à la ville, mais c'est ça qui est difficile à comprendre là-dedans, Rock, parce que les élus, en fait, pas les élus, mais les services ont eu beaucoup, beaucoup de difficultés à expliquer la définition d'un bâtiment principal où on va pouvoir ériger finalement les boîtes de dons. Les boîtes sont autorisées donc pour un usage principal des groupes commerciaux, récréatifs, industriels et communautaires. On exclut le résidentiel. Mais là, vraiment, les élus ont posé des questions à savoir comment on pourrait identifier justement où on va pouvoir les mettre. Et ça a été très difficile, je te dirais, de répondre à cette question-là. Fait qu'évidemment, encore une fois, dans le dossier-là, on va y revenir, mais on va être plus sévère aussi à ce niveau-là. Il y a des contrevenants qui vont s'exposer à des sanctions qui pourraient s'élever jusqu'à 600 $ pour une première infraction. Le conseiller Jean-François Leblanc, lui, a dit que les entreprises privées ne devraient pas être pénalisées pour ça, parce qu'elles rendent service à la communauté. Mais là, on s'entend qu'il y avait des vols de boîtes de dons, puis c'est pour ça qu'on a voulu changer la réglementation. Et de son côté, Maude Marquis-Bissonnette, elle estime qu'il n'y a pas nécessairement de compétition et que ce ne sera pas le cas, notamment avec les organismes qui vont partager les terrains pour les boîtes de dons et que ça va permettre de favoriser justement les organismes locaux. On peut l'écouter.
Une des prémices, c'est que le marché est à peu près infini. Donc, il n'y a pas. Quand on rajoute des boîtes de dons, on va ramasser davantage de stocks. S'il y en a moins, on ramasse moins de stocks. Donc, à partir du moment où il y a certaines boîtes qui disparaissent, il y en a d'autres qui vont sans doute se déplacer et les organismes connaissent leur marché, savent exactement qu'est-ce qui se retrouve où puis à quel endroit. Tu sais, c'est une business, là. Pour eux, c'est extrêmement lucratif. Donc, il y a fort à parier. Il y a déjà plusieurs mouvements, là, au niveau des boîtes de dons, mais il y a fort à parier qu'après le retrait des entreprises privées, il y a certains organismes qui vont aller se placer à certains endroits. Mais la compétition n'est pas féroce dans le sens que le marché s'agrandit à mesure qu'on ajoute des boîtes de dons.
OK. Là, mais l'éléphant dans la pièce, là, on a eu un enjeu où est-ce que les organismes communautaires étaient pris à payer, à gérer, à transporter, à nettoyer tout le matériel qui est déposé autour des boîtes, là, notamment les fameux matelas. Ça, on a-tu tant, puis c'était à leurs frais, puis c'était compliqué. Est-ce qu'on a réglé ça?
Bien, on nous indique qu'on va être plus tolérant à ce niveau-là et que ce ne sera pas aux organismes de prendre en charge, là, si tu veux, tout le dossier des encombrants. Mais encore là, plusieurs conseillers ont dit, ben, il faut le voir pour le croire, parce mais qu'actuellement, ouais, c'est un problème. Les services ont tenté, je te dirais, de se faire rassurant, mais ça reste à voir.
Mais tant qu'on ne change pas le règlement, il peut être appliqué, puis on va avoir des employés zélés, on va avoir du monde qui vont se plaindre. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est encore là, c'est du laisser-aller de la part de la ville, là, si on laisse ça aller comme ça, en disant, ben, on va être plus tolérant. Mais oui, mais à la pièce, comment ça va marcher? Ça va dépendre si t'es chum avec le maire, quoi?
C'est encore une fois dans la manière d'appliquer la réglementation, je pense. Ben ouais. Qu'on va avoir des discussions, puis qu'on va être obligé de revenir là-dessus du côté du conseil municipal.
Est-ce que je risque de me mouiller à Masson-Angers?
Pas très tôt. Donc, si tu vas aller te baigner à Masson-Angers, il va falloir que tu attendes jusqu'en 2021, Rock.
Okay.
Parce que finalement, on a décidé là, de pouvoir finalement rénover la piscine à Jackie Amy sans nécessairement repousser les 16 projets d'amélioration là, pour les parcs. Ce qu'on nous a dit finalement, là, c'est qu'on sait que les coûts de reconstruction là, s'élèvent à peu près 1,3 million. Là, ce qu'on veut faire finalement pour ne pas pénaliser les autres projets, c'est qu'on va piger à même le budget du plan d'investissement communautaire sur une période de 3 ans, ce qui va permettre à la Ville de maintenir les projets qui étaient menacés. Alors, l'enveloppe pour d'autres investissements communautaires plus minimes passerait de 3 millions à 2,6 millions. Donc, il y aurait moins d'impact à long terme, finalement, parce qu'on va financer le projet sur 3 ans. Okay. Par contre, ce qu'on nous dit, c'est que, bon, les citoyens vont être privés de la piscine pour les 2 prochaines saisons estivales, donc 2019-2020. On va aussi établir un plan de développement de l'offre pour les infrastructures aquatiques pour l'ensemble du territoire, en passant notamment par des consultations publiques pour mieux cibler les besoins. Et on nous dit qu'on va mettre des mesures compensatoires pour maintenir l'offre aquatique dans le secteur, le temps de construire la piscine neuve, principalement pour les camps de jour. C'est plus à ce niveau-là où il va y avoir des pénalités. Ce qu'on va faire, c'est qu'il y a du transport qui va être organisé pour permettre aux enfants d'utiliser d'autres installations comme la piscine Lucien Houle ou encore le parc Black Beauchamp. Mais encore là, Marc Carrière est content du résultat, mais sous certaines réserves. On peut l'écouter.
Il y a les citoyens directement concernés qui habitent autour, mais je pense qu'il faut élargir aussi, là, voire même peut-être des citoyens corporatifs qui auraient peut-être l'intérêt aussi pour être capables d'accélérer. Puis je vous dis, là, 3 ans en tout et partout, sans service du genre dans le secteur. C'est préoccupant, mais en même temps, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle ce matin, là, puis je vous remercie beaucoup du travail.
Caroline, je ne sais pas là, si tu vas avoir réponse aux questions que j'ai, mais premièrement, est-ce que la décision de rebâtir, de rénover la piscine à Masson-Angers, c'est pris ou est-ce qu'on attend de voir le plan de développement? De redéploiement,
tout ça. Non, c'est pas mal pris, je te dirais. C'est que on va effectivement la reconstruire.
OK. Tout le monde qui nous écoute se pose les deux mêmes questions. Comment ça se fait que ça prend 30 mois pour bâtir une piscine extérieure?
Très bonne question. Les services ont dû répondre à plusieurs questions. On n'a même pas été capable d'expliquer pourquoi ça coûtait 1,3 million.
Bon, ça, c'est l'autre question. Sirop de poteau, c'est de l'or en, c'est de l'eau en or?
Ouais.
1,3 million pour une piscine extérieure.
Et piscine extérieure. On n'a même pas été en mesure d'expliquer, c'est ça, la dépense nécessaire là, pour construire une nouvelle piscine. Parce qu'on sait, là, essentiellement, qu'il y avait un rapport qui avait été présenté il y a 5 ans qui confirmait le bon état de la piscine Jacquiemi. Par contre, ce qu'on nous dit, et c'est toujours selon les prétentions de Marc Carrière, mais il y aurait une négligence dans l'entretien hivernal de la structure. C'est pourquoi c'est en état de décrépitude avancée, puis que finalement, on ne peut pas la sauver, cette piscine-là. Mais on n'a même pas encore une fois été en mesure d'expliquer pourquoi il y a eu un laisser-aller à ce niveau-là. Puis ce sont des firmes également qui ont indiqué qu'il fallait reconstruire et qu'il n'y avait pas de possibilité de réparer la piscine au coût de 1,3 million. Mais encore là, c'est mystère et boule de gomme à ce niveau-là. On n'a pas été en mesure d'avoir des réponses à nos questions.
Fait que dans le fond, 3 questions importantes sans réponse. Premièrement, qui est le responsable du fiasco? Qui c'est qui a oublié de vider les tuyaux, si c'est le cas? Deux, comment ça se fait que ça prend 30 mois à bâtir une piscine extérieure? 30 mois, 3 ans, 2 ans et demi, 30 mois, piscine extérieure. Puis trois, comment ça se fait que ça coûte 1,3 million bâtir une piscine? Piscine! Merci beaucoup. Puis pourtant, il y a une présentation conseil, là. Ils ont eu le temps, là. C'était pas, ils n'ont pas été surpris, les fonctionnaires, là. Ils ont eu le temps, là, de se préparer. Puis c'était aujourd'hui, c'était planifié. Puis on vous parle de ça. 3 questions de base. Puis les élus, ils décident quelque chose, encore une fois, les 2 yeux fermés, bien durs. Merci, Carmen Campagne.
Bien, il faut dire que les élus n'ont pas nécessairement posé de questions non plus.
Bien, c'est ça. T'as encore pire. Hey, pompe-moi pas. Pompe-moi pas, Caro. Merci. Bye. Non, bye mais. Bye. Maudite affaire. OK. Il y a une piscine qui coule. Elle est finie, selon. Hey, 5 ans était bonne et plus bonne. OK? Pourquoi? Pas capable de vous le dire. Comment ça, pas capable de vous le dire? Qui c'est que vous. Quel cul vous voulez protéger? Répondez, là. Quel cul voulez-vous protéger? 1. Madame la directrice générale? Imputabilité. Répondez aux gens qui payent pour la piscine. Comment ça se fait qu'elle finit? 1. 2. Comment ça se fait qu'on va priver les citoyens de ce secteur-là de services pendant 3 ans? 3 étés. Été 2018, été 2019, été 2020. Comment ça se fait que ça prend tant de temps que ça à bâtir une piscine? Avez-vous écouté? Dehors, pas intérieure, une piscine extérieure. Comment ça se fait? Ça se peut qu'il y ait une bonne raison, mais expliquez-le. Une piscine, 30 mois, bâtir ça, only in Gatineau. Finalement, pouvez-vous nous dire pourquoi ça coûte 1,3 million, une piscine? Pas 130 000, là. Pas 430 000 piastres. Non. 1,3 million de dollars pour bâtir une piscine que vous avez laissé aller, puis que là, on est pogné à remplacer. Les élus décident d'aller de l'avant, puis ils ne posent pas de questions à ces trois questions de base-là. Il n'y a personne qui juge que c'est important de poser la question. C'est à qui la faute? Pourquoi si long? Puis pourquoi si cher? Coudonc, pourquoi vous êtes là? Courte pause.